de la frontière entre normal et pathologique au sein de la vieillesse, et qui est particulièrement difficile. Les médecins essayent de distinguer vieillesse normale, vieillesse pathologique, mais enfin, c'est un grand débat de savoir si vraiment il est possible de faire une distinction. Et du coup, la question de savoir si vieillir est-il une maladie. Dans ce cas, effectivement, nous sommes tous malades. Alors, après ces quelques constats, j'entends cette question, sommes-nous tous malades, avec quand même sa pointe de dénonciation. Sommes-nous tous vraiment malades, hein? Cette universalisation de la maladie nous dérange quand même un peu. Et en fait, il y a une dénonciation, j'entends une dénonciation derrière, il n'y aurait pas vraiment de fondement biologique. Mais plutôt, derrière, ce sont c'est de l'idéologie, c'est des histoires, des questions sociopolitiques ou économiques. Premier type de dénonciation, c'est une dénonciation qui renvoie à la critique de la médicalisation. Alors là, dès les années 70, alors je ne vous ai peut-être pas mis la référence, j'ai oublié, je m'en excuse, mais Ivan Illich, dans Némésis médical, fait une critique très virulente contre la médecine et le pouvoir médical. Foucault et d'autres vont être très critiques de ce qu'ils appelleront donc la médicalisation, et Foucault parlera du biopouvoir. Donc la médecine, en réalité, derrière cette généralisation de la maladie ou cette découverte de nouvelles maladies, ne ferait qu'étendre le pouvoir médical. Ceci, effectivement, est dénoncé et peut être fondé sur un certain nombre de faits depuis, en particulier, la seconde moitié du XXe siècle. Et il est vrai que, à partir du moment où nous sommes sortis, comme il est coutumier de le dire, d'une forme de nihilisme thérapeutique, voilà, il y a eu cet emballement qui a pu se produire et qui a été dénoncé en termes donc de médicalisation. Il y a eu aussi, à la même époque, tout le mouvement de l'antipsychiatrie, hein, des gens comme Thomas Chaz, qui dénoncent l'idée même que l'on puisse parler de maladie mentale. Ils disent, mais en réalité, on ne fait que prendre des simples problèmes de la vie ordinaire, le deuil, la tristesse, etc., et on en fait des pathologies mentales. Or, ce n'est qu'une fiction, c'est un mythe. Hein, donc, il parle du mythe de la maladie mentale. Hein, donc, c'est un ouvrage qui est publié dans les années 60. Autre dénonciation, c'est celle du pouvoir de l'industrie pharmaceutique, un petit peu plus récente. Depuis les années 90, certains parlent de « disease mongering », c'est-à-dire le fait que l'on inventerait, on façonnerait les maladies en fonction de chaque médicament. Donc, en fait, pour chaque médicament, on irait dans l'autre sens, en réalité. Hein. On créerait un médicament et derrière, on créerait une maladie pour vendre le médicament. Alors derrière, ça questionne le lien entre la définition de la maladie et la thérapeutique. Et c'est vrai que le lien est étroit. Hein. On a longtemps tendu à prendre, en tout cas dans le milieu de la santé, dans le domaine de la santé mentale, à définir le pathologique parce que ce qu'il pouvait traiter. Et le reste, on ne savait pas bien. Autre type de dénonciation, c'est celle du mythe de la santé parfaite. D'ailleurs, bon, bah, si on dit qu'on est tous malades, derrière, c'est qu'en fait, on a un idéal de santé qui est fou, qui est démesuré. Et c'est un héritage de cette fameuse définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa constitution en 1946. Se voit dans l'obligation de dire de quoi elle va s'occuper quand même, Organisation mondiale de la santé. Il faut bien définir cette santé. Et pour la définir, elle donne une définition positive, ce qui était assez novateur et surprenant à cette époque où la définition majoritaire dans le milieu médical est encore très prégnante. C'est plutôt une définition négative, c'est-à-dire que la santé, c'est l'absence de maladie. La définition qui est donnée par l'OMS, c'est une définition selon laquelle donc, la santé, c'est l'état complet de bien-être physique, mental et social. Donc effectivement, on va assez vite vers le mythe de la santé parfaite avec une telle définition positive, une définition qui tend à identifier la santé avec le bonheur. Et c'est vrai que si c'est cela la santé et que la maladie est le contraire de la santé, eh bien nous sommes tous malades, je pense. qui est dans un état complet de bien-être physique, mental et social, je ne sais pas. Derrière aussi le mythe, la dénonciation du mythe de la santé parfaite, je pense qu'il y a aussi la dénonciation, enfin, un autre type de dénonciation, mais qui est celui de... Souvent, on dit, voilà, la santé est devenue un nouvel idéal dans un contexte de sécularisation, le nouveau lieu du salut. Et puis, il y a aussi derrière, du coup, une sorte de dénonciation, qu'on pourrait dire éthique ou religieuse, d'un certain refus, justement, de la vulnérabilité, de la souffrance et de la mortalité. Je voudrais maintenant souligner le fait que cette question, en fait, pointe le problème de la démarcation entre le normal et le pathologique, je l'ai déjà évoqué, mais aussi la question de l'origine et de la légitimité de l'étiquette maladie. Alors, avant d'entrer un petit peu plus dans la problématisation, je voudrais simplement distinguer, souligner le fait qu'on se situe ici, et moi je vais me situer à ce niveau, pour ce sujet, c'est au niveau de la catégorie générale de maladie. Il faut bien distinguer cette catégorie générale de ce qu'on peut appeler une catégorie nosologique, c'est-à-dire les maladies individuelles, tuberculose, infarctus, hypertension, etc., et encore de la catégorie diagnostique, c'est-à-dire la maladie de tel ou tel patient. Donc là, quand on parle « sommes-nous tous malades ?», je retiens la notion de maladie et on va s'intéresser à cette question de la démarcation normale-pathologique au niveau de la catégorie générale de maladie. Derrière cette question de la démarcation, on peut distinguer deux types de questions. Premier type de question qui est question de type ontologique, c'est-à-dire la maladie est-elle un type naturel, est-elle une catégorie naturelle, est-elle une chose, un être? Et puis il y a une question épistémologique, c'est-à-dire que si qu'on admette ou pas, qu'on résolve ou pas cette question ontologique, se pose la question de savoir si l'on peut distinguer de manière objective cette frontière, cette normalité de du pathologique. Alors, la question derrière la question de la démarcation, c'est celle de savoir ce qui fait qu'on considère que telle situation humaine, la tuberculose par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va considérer que cet état, cette situation humaine, est une maladie ? Et qui va faire qu'une autre situation humaine, comme par exemple l'évasion fiscale, n'est pas une maladie. La question de la démarcation est devenu un problème plus fort dans la médecine contemporaine, est devenu un problème plus aigu, je dirais, dans la médecine contemporaine. Je l'ai évoqué tout à l'heure, du fait simplement déjà de l'importance et de la place prise par les maladies dégénératives, ou maladies dites dégénératives, liées à la transition épidémiologique. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ces gros mots, mais en tout cas, on parle de transition épidémiologique depuis à peu près 1920-1930 aux États-Unis et dans les pays occidentaux, c'est-à-dire un peu cette inversion. On ne meurt plus de syphilis ou tuberculose, mais on meurt de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est les premières causes de mortalité, de morbidité, les premières maladies deviennent des maladies, non, pas des maladies infectieuses et contagieuses, mais des maladies dites chroniques qui sont liées au vieillissement de la population. Et ces maladies sont associées à sont souvent liées au vieillissement et donc ont un développement progressif, souvent silencieux, et d'où effectivement la place et l'importance prise par ces maladies asymptomatiques et le fait que le médecin puisse nous dire « mais vous êtes malade » alors que le patient ne se sent pas malade. Bon, ben effectivement, il y a une tumeur, mais elle est là depuis longtemps, mais voilà, je ne pouvais pas le savoir comme malade sans qu'il y ait, des examens médicaux. Alors qu'on peut dire que jusque dans les années 50-60, la médecine fonctionnait, le malade allait chez le médecin parce qu'il y avait une plainte, quand Guillaume est vraiment dans examine ça, et pour lui, c'est vraiment ce sens-là de la maladie qui l'intéresse. C'est le malade qui se plaint de quelque chose, donc il y a une maladie. Le médecin va effectivement avoir sa vision de la maladie, qui ne sera pas forcément la même que celle du malade, mais enfin, il y a toujours une maladie, une démarche qui vient d'une souffrance à la base. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, les choses ne peuvent plus ou fonctionnent plus de cette manière-là. Et puis aussi, Il y a cette approche probabiliste, donc qui est liée hein, à ces nouveaux types de pathologies, cette approche probabiliste des maladies hein, qui a émergé dans les années 60-70, et cette fameuse notion donc, des facteurs de risque. La démarcation, donc, ici, est un problème, et elle est d'autant plus un problème qu'elle est devenue plus nécessaire aussi, au même moment. C'est-à-dire qu'on peut dire que qu'un état relève du pathologique a de nombreuses implications pratiques dans notre société contemporaine, en plus de conséquences diagnostiques et thérapeutiques. Les assurances sociales et privées de santé, faut-il prendre en charge telle ou telle condition? Savoir quelle est une maladie peut aider à trancher. Hein. Alors, on peut se poser la question sur la chirurgie esthétique, le bégaiement, etc. La décision, la démarcation normale et pathologique a aussi une implication sur le plan de la justice, puisque vous savez que la responsabilité du criminel va dépendre effectivement d'une évaluation par un psychiatre. Et puis on a aussi, sur le plan des financements, le fait d'appeler maladie un certain état va contribuer à dégager un certain nombre de financements pour des recherches biomédicales. Derrière aussi, la question de la démarcation entre normal et pathologique, c'est aussi la question de la démarcation qui devient de plus en plus une question entre la médecine d'amélioration et la médecine thérapeutique. Donc, ce que je voudrais souligner maintenant, c'est que ce qui est questionné donc, dans cette démarcation, en fait, avec cette démarcation, c'est une certaine conception, justement, de cette différence entre le normal et le pathologique. C'est, de fait, l'idée que nous serions tous malades, en fait, froisse une certaine conception intuitive que nous avons de la maladie. En général, intuitivement, et même dans l'intuition médicale, la maladie, c'est plutôt l'exception, c'est plutôt l'anormalité statistique. Et par ailleurs, santé et maladie sont conçus justement dans une relation d'opposition l'un par rapport à l'autre, et même dans une relation d'exclusivité. Si l'un est présent, si je suis malade, je ne suis pas en bonne santé, et réciproquement. Ce que je voudrais examiner, c'est quelle réponse on peut apporter justement à ce problème de la démarcation aujourd'hui et à cette inquiétude et cette dénonciation d'une généralisation ou d'une universalisation de la maladie. Peut-on rendre compte de cette intuition selon laquelle, d'un côté, la maladie, c'est plutôt l'exception, et puis par ailleurs, la maladie est plutôt contraire de la santé? Peut-on rendre compte donc de cette double intuition et lui donner un fondement? Et l'enjeu derrière, c'est quand même bien celui d'éviter peut-être cet arbitraire ou ce qui semble, cette forme d'arbitraire qui semble dénoncée par cette question « Sommes-nous tous vraiment malades ?» La philosophie de la médecine connaît un déploiement renouvelé du côté anglo-saxon depuis les années 70. Un des axes centraux de ce champ a été justement la question de la définition de la santé et de la maladie. Et c'est une manière de répondre à ce problème, en réalité. Les philosophes qui ont fait ce travail de chercher une définition de la santé sont vraiment partis justement de ce problème de la définition de l'OMS en disant on a un gros problème, on a une définition beaucoup trop large, beaucoup trop inclusive, il faut qu'on arrive à revenir à une définition qui nous permet une démarcation et qui rend compte de nos intuitions et de nos intuitions à la fois des intuitions qui sont derrière nos appréhensions de la maladie. Deux pistes ont été explorées. Et donc je suivrai ces deux pistes, deux types de solutions donc, qui peuvent être proposées pour éviter que nous soyons tous malades. Première proposition, c'est donc de donner une définition au sens vraiment de délimiter, définition générale de la maladie qui ne soit donc ni trop inclusive, qui ne soit pas trop inclusive et qui pourrait du coup réglementer les décisions de classification. Dire, ben voilà, c'est sur tel et tel critère qu'on va considérer que cet état est une maladie. La question de l'homosexualité, par exemple, a fait grand débat dans les années 70 aux États-Unis. Deuxième possibilité, deuxième solution, ou piste de solution pour éviter que nous soyons tous malades, ce serait de renoncer à l'idée d'un concept unique de maladie et peut-être de penser une pluralité de concepts de santé et de maladie, les articuler les uns aux autres. Alors j'examine maintenant la première solution, proposer une définition. Je vais vous proposer rapidement, je vais essayer de vous présenter rapidement donc la définition, enfin deux efforts de définition. Le premier effort a consisté, donc, c'est la définition de Christopher Bourse. Donc, je vous ai distribué un petit papier qui va nous aider un petit peu pour suivre hein, cette définition qui est assez complexe en fait à bien comprendre. Je vais essayer de vous faire entendre ce qu'elle peut apporter en tout cas par rapport à cette question. Cette première piste dans la recherche de définition consiste à donner une définition statistique et objective. C'est une définition qu'il dit biostatistique. Alors, l'idée, c'est bien justement de repartir de cette intuition selon laquelle la maladie, c'est un écart statistique. Ce n'est donc, enfin, que la normalité, c'est la normalité statistique. Et cette idée nous permettrait donc, quelque part, d'éviter que nous soyons tous malades. Hein. Et il nous dit bien, donc à Bourse, enfin avant d'en venir à Bourse, le problème de la définition de la normalité statistique, c'est qu'elle a été abondamment critiquée. Il est très clair qu'elle est insuffisante. Alors, Claude Bernard, le premier, enfin pas le premier, mais avant lui, mais déjà Claude Bernard critiquait très fortement les statistiques. Il n'aime pas du tout les statistiques parce qu'elles sont d'abord trop... C'est un outil empirique. Il a un idéal de la science, d'une science certaine. Les statistiques, voilà, on est dans de l'empirique. Et puis surtout, il n'aime pas la notion de moyenne. Alors, il n'aime vraiment pas ça parce que c'est un physiologiste et vraiment, il s'intéresse à la variabilité individuelle. Et pour lui, c'est ce concept de moyenne, c'est anti-physiologie. Ça va contre l'idée même, justement, de la physiologie qui s'intéresse à la variabilité. Alors, il a des passages qui sont assez rigolos, d'ailleurs, sur la critique de la moyenne. Et puis, quand Guillaume, qui critique Claude Bernard sur tout le reste, là-dessus, il est d'accord avec lui, mais il conteste aussi... En plus de Claude Bernard, donc il reprend la même critique, hein, il y a des passages dans le normal et le pathologique sur le chapitre normes et moyennes, il critique aussi la moyenne, mais d'une manière un peu différente. Pour lui, ce qu'il conteste surtout, c'est le statut d'objectivité et d'absolu de la norme statistique. La moyenne, pour lui, n'est en réalité que l'expression d'une normativité biologique. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit arrière-pays de connaissance de Quang Guillem. En tout cas, Quang Guillem, sa thèse fondamentale, c'est de dire qu'il y a une... En fait, il parle de la santé de la maladie parce qu'il veut parler de la vie. Et pour lui, le vivant est normatif, au sens où être vivant, c'est choisir, c'est sélectionner dans son environnement. Et donc, il y a une normativité intrinsèque du vivant. Et donc, il introduit ce concept de normativité biologique. Et pour lui, du coup, en réalité, donc, il critique Claude Bernard sur son objectif de définir des normes de manière objective et scientifique. C'est impossible puisque toute norme, puisque la vie est normative. Donc il n'y a pas de possibilité d'avoir... Et puis du coup, les normes changent. Donc pour lui, il défend la démarcation entre le normal et le pathologique va dépendre de chaque individu. Elle se fait au niveau de chaque individu. Il n'y a pas de normes physiologiques absolues. Sa critique de la moyenne consiste surtout à dire que s'il y a des moyennes, s'il y a des valeurs physiologiques qui se retrouvent dans les individus du même âge et du même sexe, c'est parce qu'en réalité, c'est la vie qui, justement, c'est la vie qui provisoirement se stabilise et qui fait que... Enfin, c'est donc derrière, il y a toute une vision de la théorie de l'évolution sur laquelle il fonde cette thèse de la normativité biologique. peut-être on pourra revenir. Je ne vais pas beaucoup parler de Kang Yem, puisque justement, je pense qu'il y a des développements qui ont été faits indépendamment de lui et après lui, du côté anglo-saxon, qui positionnent les choses un petit peu autrement. Et justement, donc, il y a un débat chez les anglo-saxons depuis les années 70, qu'on appelle le débat entre les naturalistes et les normativistes sur le concept de santé et de maladie. Sauf que normativiste, ça ne veut pas dire du tout la même chose qu'en Guillaume. Ça veut dire que le concept de santé est normatif, parce qu'en réalité, c'est toujours, ça renvoie à des valeurs, mais des valeurs sociales ou subjectives. Chez Kang Yem, c'est des valeurs qui sont d'abord biologiques. Donc dans ce débat, et les normativistes donc, partent du constat, disent bon, bah, la seule manière qu'on ait de définir objectivement la norme en santé, c'est les statistiques. Or les statistiques, la normalité statistique n'est pas un critère qui est nécessaire, ni un critère suffisant, puisqu'il y a, il y a des états fréquents qu'on considère comme, à juste titre, comme pathologiques. L'athérosclérose, un certain âge en tout cas, les caries, etc. Il y a des états rares qu'on ne considère pas comme pathologiques, une très bonne intelligence. C'est le problème, on y reviendra dans un instant, qu'on appelle le problème du fonctionnement supérieur. Du coup, il semble nécessaire de distinguer, on ne peut pas dire que le pathologique, c'est la normalité statistique. Ça serait mieux si on pouvait dire que le pathologique, c'est la subnormalité statistique. C'est ce que va faire Christopher Bourse. Bourse est donc un philosophe américain qui, en 1977, publie un article donc, dans la prestigieuse revue Philosophy of Science qui s'intitule « La santé, un concept théorique », le concept théorique de santé. Et dans cet article, il propose une définition de la santé, une définition biostatistique de la santé. Et donc il défend une position naturaliste, ou précisément, alors il faudrait entrer dans les détails, parce que naturalisme, ça renvoie à plein de choses très différentes. Et on va dire que pour lui, la démarcation entre le normal et le pathologique est une démarcation objective et factuelle. Et il va donner un caractère central à la normalité statistique. Mais il va articuler le concept de normalité statistique à celui de fonction biologique. Et c'est cette articulation qui permettrait d'éviter les problèmes, les critiques qu'on a faites à la normalité statistique. Il fait une liste intéressante d'idées élémentaires qui ont été utilisées jusqu'à, donc il est en 77, jusqu'à lui, pour définir la maladie. Et il montre comment aucune de ces idées n'est nécessaire ou suffisante. Donc on a parlé de la maladie comme la normalité statistique, ça on en a déjà parlé. On a pu dire que la maladie c'était la souffrance. On a pu aussi dire que c'était une valeur négative, ça c'est Kang Yem. On a pu dire que la maladie c'était l'inadaptation. On a aussi parlé de la maladie comme d'un trouble homéostatique. Alors là il s'appuie sur Claude Bernard, il dit que c'est la manière dont Claude Bernard en réalité définit la maladie. On a parlé de la maladie aussi comme incapacité ou comme simplement ce qui est traité par la médecine. Peut-être ça simplifierait les choses finalement de partir comme ça. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il examine chacune de ces 7 idées et il nous dit bon, aucune d'entre elles n'est nécessaire ou suffisante pour caractériser la maladie. Et puis chacune présuppose en réalité un problème de fonctionnement biologique. Et c'est cette notion qu'il retient. Il définit la maladie comme un dysfonctionnement biologique. Et pour lui, la santé est l'absence de maladie. L'absence de maladie, l'absence de dysfonctionnement biologique. La norme de santé n'est pas absolue, mais elle a une généralité empirique. Donc il n'est pas non plus, il ne revient pas à Claude Bernard. Hein. Il va, si vous voulez, on peut dire qu'il fait une synthèse de Claude Bernard et puis de Ketley, donc la conception physiologique et la conception statistique. Et donc pour lui, la norme de santé n'est pas absolue, mais elle a une généralité empirique et objective, car elle est, par la nature même de ce qu'est une fonction physiologique, relative à une classe de référence. En fait, son travail de philosophe, ce qu'il prétend faire en tout cas, c'est d'examiner tous les manuels de médecine, de prendre tout ce que les médecins appellent maladie, et puis d'essayer de dégager la définition qui serait implicite derrière cet usage. Et il dégage une définition de la fonction physiologique. Pour lui, une fonction, c'est une contribution à un but. Et une fonction physiologique, c'est une contribution à la survie et à la reproduction de l'organisme d'une espèce donnée. Chez l'être humain, c'est une classe de référence qui est une portion de l'espèce, c'est-à-dire qu'on va distinguer par le sexe et par l'âge. Donc on va distinguer hommes et femmes, et puis les enfants et les adultes. Alors, sur la question d'une troisième classe de référence au niveau des personnes plutôt âgées, c'est assez flou. Enfin, ils considèrent que la médecine ne le fait pas, mais ils proposeraient plutôt qu'on le fasse, justement. Et ça résoudrait notre problème. Ça éviterait qu'on considère que toutes les personnes âgées sont malades, puisque en fait, toutes elles sont traitées aujourd'hui pour de l'hypertension, ou elles ont toutes de l'athérosclérose, elles sont toutes malades. Alors que si on fait une classe de référence, c'est-à-dire que la norme est en fonction de cette classe d'âge-là, hein, on verra statistiquement, eh bien, du coup, on évite ce problème. Et il donne la définition de la maladie, il donne la définition suivante. C'est un type, alors je vous ai mis les quatre énoncés de sa définition, donc vous voyez la classe de référence, c'est tout en bas de la feuille, hein, la classe de référence. C'est une classe naturelle d'organismes ayant donc un... Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait qu'on analyse, mais j'ai gardé design parce que c'est intraduisible chez lui. Un design fonctionnel uniforme, particulièrement donc un groupe de même âge et de même sexe à l'intérieur d'une espèce. Une fonction normale pour les membres de la classe de référence et sa contribution statistiquement typique à la survie et à la reproduction individuelle. Une pathologie est un type d'état interne qui est soit une diminution d'une capacité fonctionnelle normale, c'est-à-dire une réduction d'une ou plusieurs capacités fonctionnelles, au-dessous du niveau d'efficacité typique. Alors, peut-être que ça va vous aider un petit peu de voir la petite courbe, puisque tous les médecins connaissent cette courbe de Gauss, qui est effectivement celle sur laquelle on s'appuie majoritairement, cliniquement, pour définir les normes. Et donc il reprend cette courbe, il essaye d'en rendre raison, hein, d'en rendre compte. Et pour lui, donc effectivement, sur cette courbe, avec sa définition, on ne garderait que le côté, ne serait pathologique que le côté gauche de la courbe. Et on laisserait le côté droit qui serait effectivement, donc seul le subnormal serait pathologique, le statistiquement subnormal est pathologique. On éviterait donc ici le problème du fonctionnement supérieur, et ceci tient justement à sa définition de la fonction physiologique. Parce que pour lui, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de sens à parler d'excès d'une fonction. Une fonction est efficace ou non, et la distribution statistique à partir de laquelle on va définir le normal et le pathologique, en fait, c'est la distribution statistique de l'efficacité de la fonction. C'est-à-dire dans quelle manière elle contribue à la survie et à la reproduction de l'individu, c'est ça. Et non pas la variable physiologique, donc ce qu'il appelle le processus concret. Donc il fait cette distinction entre ce qui est l'efficacité de la fonction, comment elle contribue à la survie et à la reproduction, que ce soit un organe ou que ce soit une variable physiologique, et il distingue la variable physiologique elle-même. Et c'est vrai qu'en clinique, en fait, on s'appuie majoritairement sur des variables physiologiques, plus que l'efficacité de la fonction. Alors, il faudrait faire, éventuellement, l'épidémiologie nous donne l'efficacité de la fonction, puisqu'elle fait des corrélations entre des variables et justement la survie sur une population. Donc, par exemple, dans le cas, donc, il considère que cette manière de définir résout le problème donc, du fonctionnement supérieur et ce qu'on appelle le problème des maladies, ce qui s'est appelé dans le débat le problème des maladies extrémales, c'est-à-dire ces maladies quantitatives que j'ai évoquées tout à l'heure, hypertension, cholestérol, etc., ou même le taux de glycémie. Et il nous dit dans le cas de la thyroïde, par exemple, le processus, donc quand on dit hypertension ou hypotension, hyperthyroïdie ou hypothyroïdie, dans le cas d'hyper ou d'hypo, en fait, c'est un problème de dénomination. On ne devrait pas dénommer ainsi. En fait, dans l'un et l'autre cas, on réfère à un niveau d'efficacité qui est inférieur. C'est un niveau de fonctionnement qui est inférieur au niveau de fonctionnement typique de la thyroïde. Donc, on évite ce problème des maladies dites quantitatives. Et puis, l'autre aspect dans lequel il résoudrait, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés avec sa définition, mais il considère que sa définition de la norme de santé, de la normalité, intègre la variation. Il n'y a pas une seule valeur qui est normale. Ce n'est pas seulement la moyenne qui est la norme de santé, mais c'est un ensemble de valeurs qui est situé justement au-dessus de la valeur moyenne. De fait, sa définition rend assez bien compte de ce que les médecins utilisent et de de la manière dont on définit la normalité en médecine. Il rend bien compte du concept médical et il rend assez bien compte aussi de cette intuition que nous avons, enfin de cette manière dont nous avons de préférer relativiser la norme de santé à l'âge et à un certain nombre, effectivement, à ces fameuses, enfin ce qu'il appelle les classes de référence. Mais ça correspond assez bien à ce que intuitivement nous faisons. Mais sa définition pose de nombreux problèmes conceptuels et surtout, au final, elle apparaît assez restrictive. C'est-à-dire que dans cette la définition qu'il donne de la fonction, en la définissant à partir de la survie de la reproduction, on a l'impression qu'effectivement la santé est définie de manière très biologique. Alors, d'autres, je ne vais pas entrer dans les détails des critiques qui lui ont été faites, je voudrais avoir le temps de présenter l'autre type de définition qui est vraiment, justement, qui part de ce constat, mais on ne peut pas s'en tenir pour dire santé-maladie, ce n'est pas qu'une question de survie de reproduction, c'est aussi quand même une question, il y a une dimension subjective, il y a une dimension personnelle, et c'est la démarche d'un autre philosophe, Lennart Nordenfelt, cette fois il est suédois, et non pas américain, et il propose une définition holistique de la santé, mais il répond à notre problème, sommes-nous tous malades aussi, puisqu'il a un peu le même objectif que Bourges, justement, hein, d'éviter ce problème et de répondre à ces questions de démarcation en définissant. Donc son objectif premier, c'est en fait de délimiter la santé et le bonheur. Donc il va proposer une définition qui permet, qui est plus large que celle de Bourges, hein, qui n'est pas que biologique, mais qui permet malgré tout d'éviter que quand même on soit tous malades. Et il élargit les buts, hein, en fait on va retrouver un peu une définition aussi qui, en fait sa définition de la santé articule trois composants. Pour lui, la santé est une relation entre... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Il se situe, lui, dans un cadre de... C'est un philosophe de l'action. Donc, il part de la théorie de l'action, théorie analytique de l'action, pour penser la santé. Et donc, il considère que le sujet, il le considère comme un agent. Donc, la santé, c'est un problème... Et là, on va voir qu'il y a des proximités fortes avec Kang Yem. Hein. Donc, en fait, il a lu Bourges, il a lu Kang Yem. Et il fait un peu, il définit à la manière de Bourges, mais avec l'héritage de Kang Yem, qui considérait que la santé, enfin, il aborde la santé et la maladie comme des catégories, non pas, pas comme des variables qu'on va pouvoir quantifier, mais pour lui, la santé, c'est d'abord une capacité normative. Donc, c'est un comportement, c'est une allure de vie. Et Nordenfelt se rapproche de cette manière de penser, même si c'est dans un style complètement différent. Et donc pour lui, la santé est une relation entre trois composants. Donc les capacités d'un agent, un ensemble d'actions et de buts vitaux que cet agent, qu'on peut attendre de pouvoir mener, et puis un environnement. Alors plus précisément, les capacités d'un agent, c'est en réalité les dispositions physiologiques. Il nous dit que c'est le type de possibilité pour agir qui est déterminé par des facteurs internes au corps et à l'esprit de l'agent. Pour ce qui concerne l'ensemble d'actions ou de buts vitaux, c'est en réalité ce qu'un individu en bonne santé est censé pouvoir accomplir lui-même. C'est à cette condition qu'il est en bonne santé, il faut qu'il puisse les accomplir de lui-même. Alors après, tout le problème, c'est de définir ses buts vitaux. Alors, il propose, il nous dit, dans la littérature, il y a une définition très objective des buts vitaux, donc on retombe un peu sur l'approche de Bourges, c'est-à-dire, c'est la survie, la reproduction, etc. Et puis, il y a des approches plus subjectivistes, c'est-à-dire, ben, en fait, les buts vitaux, c'est ce que chaque sujet veut. C'est défini par le sujet. Donc là, on retombe plutôt du côté de Canguilhem, même si Canguilhem, c'est assez compliqué, puisque c'est à la fois une subjectivité, mais une subjectivité biologique. Mais en tout cas, donc, il se situe, il propose de ni l'une ni l'autre. Il veut proposer une option intermédiaire, c'est-à-dire que pour lui, les buts vitaux sont ceux qui sont nécessaires et suffisants pour un bonheur minimal et durable. Alors, le problème, c'est que maintenant, il va falloir définir le bonheur. Voilà. Donc, il a une définition qui est du coup la suivante. La santé est la capacité qu'une personne a, dans des circonstances acceptées, de réaliser ses buts vitaux, c'est-à-dire ceux nécessaires et suffisants pour un bonheur minimal et durable. Alors, la santé n'est donc pas suffisante pour le bonheur, puisque, effectivement, on peut avoir des environnements défavorables. Et puis, la santé n'est pas non plus nécessaire pour le bonheur, puisque les buts vitaux peuvent être apportés par quelqu'un d'autre. Donc, avec cette définition, il propose, du coup, ainsi des manières de distinguer santé et bonheur. Alors, on peut dire qu'en dépit des conditions restrictives qu'il donne, avec cette notion de durabilité du bonheur et puis le caractère réaliste des buts qui doivent constituer les buts vitaux, sa définition de la santé a été critiquée comme étant encore trop large, trop proche finalement de l'OMS et trop inclusive. Et c'est vrai qu'il semblerait par exemple pas irréaliste avec sa définition qu'un athlète, que pour un athlète qui n'atteint pas la troisième marche du podium, on peut considérer que cet athlète, pour lui, atteindre cette troisième marche, ça fait partie de ses buts vitaux. Et que du coup, voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas bien envie de dire qu'il est en mauvaise santé, simplement puisqu'il n'a pas atteint cet objectif. Alors que la définition, finalement, si on regarde bien, conduit à ce genre de contre-exemple ou d'inclusion trop importante. Alors, plus globalement, ces tentatives de définition, dans ce style donc, de la méthode dite de l'analyse conceptuelle, que ce soit Nordenfeld ou Bourse, leur démarche, c'est de chercher un critère nécessaire et suffisant pour définir, délimiter et ainsi pouvoir caractériser le normal et le pathologique et les distinguer. On peut dire que ces définitions n'aboutissent pas vraiment à une solution pleinement satisfaisante, c'est ou trop exclusif ou trop inclusif. Et puis, on est tombé dans des débats et des controverses qui semblent sans fin. Je voudrais maintenant examiner la deuxième proposition de solution à cette question « Sommes-nous tous malades ?» Enfin, c'est prétentieux une solution, c'est plutôt une manière de peut-être essayer de répondre ou de s'arranger de cette histoire. Cette deuxième proposition consiste à dire simplement que, qui reprend donc la deuxième intuition que j'ai identifiée au début. Première intuition consiste à dire que la santé c'est une anormalité statistique. La deuxième intuition c'est qu'en fait on pense santé et maladie comme des opposés. Alors on les conçoit et dans l'histoire de la médecine c'est très présent et puis dans la médecine contemporaine. On tend à penser plutôt que la santé, c'est l'absence de maladie et que santé et maladie sont dans une relation contradictoire, c'est-à-dire qu'aucun phénomène ne peut être sain et pathologique en même temps et qu'aucun phénomène peut être ni sain ni pathologique, qu'il n'y a pas vraiment d'état intermédiaire. Or, si on pensait les choses un petit peu autrement, peut-être que du coup, cela nous poserait moins de problèmes qu'à certains niveaux, nous puissions dire qu'il y a une universalité de la maladie. Alors, première possibilité qui consiste donc à développer une conceptualisation un peu plus complexe qu'une simple opposition entre deux notions, consiste à conserver une relation d'exclusivité entre santé et maladie, mais de penser qu'il y a plusieurs concepts de maladie, tout simplement. C'est ce que fait aussi Christopher Bourse. Il maintient cette intuition fondamentale à ses yeux, d'une relation d'opposition et même de contradiction entre santé et maladie. Pour lui, si on lâche là-dessus, on tombe dans un relativisme et tous les risques, il parle d'excès de rhétorique, d'excentricité rhétorique et le fait que, effectivement, n'importe qui décidera du jour au lendemain qu'on peut effectivement parler de maladie pour tel ou tel état. Et donc, il maintient cette définition négative de la santé et cette relation contradictoire entre santé et maladie, mais il propose un pluralisme conceptuel et une conception multiniveau. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il y a plusieurs concepts de santé. Un concept théorique et il y a un concept pratique, un ensemble de concepts pratiques. Donc le concept théorique, c'est le concept qu'utilise la médecine. C'est la normalité dans le petit schéma que vous avez, c'est la normalité donc, du point de vue théorique. Et à cette normalité théorique, voilà, peuvent s'ajouter des concepts de normalité qui sont... Enfin, on va ajouter des valeurs, et notamment pour lui, effectivement, déjà, le jugement diagnostique ajoute des valeurs, le jugement thérapeutique ajoute encore des valeurs. Et donc, au niveau diagnostique, on a un autre concept de normalité qui se greffe sur ce concept fondamental qui est le concept théorique. Donc, on peut être, par suite... Cette conception-là, multiniveau, permet de rendre compte des maladies asymptomatiques et des divergences entre la perception du malade et la perception du médecin. Je me sens très bien, moi je me sens pas malade, vous me donnez un traitement, bon, mais... Parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a une pathologie au niveau théorique, mais l'individu, au niveau, et puis aussi au niveau du coût thérapeutique, mais l'individu lui-même, vous voyez, la petite case malade, elle est beaucoup plus restreinte que celle qui est pathologique, qui est beaucoup plus large. La pathologie au niveau théorique s'étend beaucoup plus largement que ce qui renvoie au concept anglais, donc de « ill » à distinguer. Alors lui, il fait la distinction entre « disease » et « illness » pour souligner notamment cette différence. Donc on peut être dit avoir une pathologie et pour autant n'être pas malade. Et cette fameuse triade qui a été aussi beaucoup débattue, donc dans la langue anglaise, on a trois mots pour dire maladie, disease, illness et sickness. En français, on n'en a qu'un, mais selon qu'on l'utilise comme nom, comme adjectif, on pourra retrouver les mêmes nuances. C'est-à-dire qu'effectivement... Disease renvoie au concept objectif et scientifique, théorique de la maladie. Inès renvoie au concept plus subjectif, vécu. Je suis malade. Et donc disease, ça serait avoir une maladie. Inès, je suis malade. Je vis la maladie. Et sickness renvoie à la dimension sociale de la maladie, c'est-à-dire être un malade, être reconnu socialement comme un malade. Alors, d'autres, Nordenfeld aussi, puis d'autres philosophes ont pensé aussi de manière plus fine, enfin, ont proposé d'articuler. Alors, Nordenfeld, lui, oppose santé et illness, et il introduit aussi un concept de disease, un concept de maladie théorique, mais il l'articule de manière différente, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais plus présenter la deuxième manière de faire qui consiste... non pas à penser une relation de contradiction et d'exclusivité entre santé et maladie, mais à penser un rapport d'inversion et de polarité. C'est ce que fait Canguilhem. Canguilhem, comme Bourse et comme Nordenfeld, pense comme des santé et maladie comme des opposés, mais pour lui, ce n'est pas une relation logique de contradiction, c'est une relation de contrariété. Pour lui, il parle en ces termes-là, c'est un rapport d'inversion et de polarité. Et alors, Canguilhem, d'une certaine façon, pense, à certains moments, il dit qu'il y a une relation de contrariété, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi une identité entre santé et maladie, puisque, à un certain niveau, dans la mesure où la maladie fait partie de la santé et la santé fait partie de la maladie puisqu'il considère que la maladie, ce n'est pas l'absence de normes, mais c'est une normativité restreinte. Donc en fait, ce qu'ont en commun santé et maladie, c'est qu'il y a une normativité du vivant qui est présente. Donc son point de départ, c'est de dire bon, la maladie, ce n'est pas l'absence de normes, c'est une normativité, donc elle a en commun avec la santé seulement... Il y a vraiment une polarisation qui est contraire de cette normativité. C'est-à-dire que dans la maladie, on est dans la répulsion et dans la santé, on est dans la propulsion. Il utilise ces concepts de valeurs propulsives et répulsives. Et pour lui, la menace, il écrit même, hein, donc, dans le Normal et pathologique, vous trouverez ça à page 216, il écrit « La menace de la maladie est un des constituants de la santé ». Je voulais vous citer deux, trois, mais comme l'heure tourne, c'est pas grave. Il a vraiment des passages, justement, autour de la page 216, des lignes où il dit « Bon, bah, la maladie, c'est l'ombre portée dans la santé ». En fait, la santé est la maladie est déjà présente dans la santé réciproquement. Troisième et dernière option, qui consiste finalement à revenir à Galien, changer complètement de logique dans l'analyse de ces concepts. C'est-à-dire plus les penser comme opposés, mais simplement les penser en termes de degré, abandonner la logique classique, qui conduisait à des approches dichotomiques et adopter la logique du vague. La logique du vague, c'est notamment donc c'est la théorie. Alors il y a tous des développements de la logique dans ce domaine, et en particulier donc c'est ce philosophe allemand Zadek Zadeh qui propose l'usage de cette logique pour la médecine. Il nous dit, mais en médecine, on a besoin de penser autrement que de la manière classique, et il faut exploiter cette logique du vague. Les concepts classiques, il distingue les concepts classiques des concepts qu'il dit non classiques et qui sont en fait des concepts irréductibles. Les concepts classiques définissent des classes par un ensemble fini de caractères nécessaires et de caractéristiques nécessaires et suffisantes. Dans ce cas-là, l'appartenance à une classe est absolue. Soit je suis un oiseau, soit je suis un être humain. Un individu appartient ou non à une classe et il n'y a pas de degré. On peut dire que pour les maladies au niveau des maladies individuelles, au niveau de la catégorie nosologique, non pas au niveau de la catégorie générale, normale, pathologique, au niveau par exemple de la tuberculose, on a certaines définitions de maladies qui nous permettent de définir de cette façon, de manière classique. C'est-à-dire que la tuberculose, aujourd'hui, on peut dire qu'on a à faire une définition en termes de caractéristiques nécessaires et suffisantes. Hein, il faut que, effectivement, il faut ajouter aux caractéristiques de la pneumonie le bacille de corps. Ce sont les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir parler de tuberculose pulmonaire. Appliquée au domaine de la définition des catégories générales de santé et de maladie, cette conception classique, empruntée à la logique classique, entraîne le fait que la maladie et la santé s'excluent réciproquement. Hein, c'est ce qu'on a vu jusque-là, c'est la pensée dominante. Or, nous dit Zadek Zadeh, un grand nombre de nos catégories du monde réel n'entrent pas dans cette définissabilité. Il prend l'exemple de la catégorie des oiseaux. Un rouge-gorge a des plumes, a un bec, pond des œufs, gazouille, vole, et ainsi de suite. Les pingouins sont aussi des oiseaux, comme les rouges-gorges, mais ils ne possèdent pas toutes ces caractéristiques. Et il montre qu'on ne parvient pas à dégager un certain nombre de caractéristiques nécessaires et suffisantes qui nous permettent de rendre compte de tous les oiseaux qu'on intègre dans la classe oiseaux. L'intuition fondamentale de la théorie du vague est la suivante. L'idée est que l'appartenance à une classe n'est pas absolue, mais relative. C'est-à-dire qu'un individu va appartenir à un degré donné à une classe. Ceci sera représenté par une valeur comprise entre 0 et 1. Et les concepts du coup classique apparaissent eux-mêmes intégrés dans cette théorie du vague, puisqu'ils seront ils sont un cas particulier. L'appartenance aux classes qu'ils définissent est soit nulle, soit parfaite. Donc si on définit le diabète comme une classe à laquelle les individus appartiennent plus ou moins, on sort de ce problème de savoir effectivement qui est normal, qui est pathologique. On peut être pris en charge à partir d'un certain degré de maladie ou de santé dans une dimension donnée, puisqu'un individu peut, par exemple, être à la fois diabétique dans la mesure 0,1, par exemple, et non diabétique dans la mesure 0,9. Alors, tout ça s'appuie, hein, là c'est vraiment, j'en reste au niveau conceptuel, mais tout ça s'appuie vraiment sur des données diagnostiques et sur l'analyse de la manière dont les médecins font leur diagnostic aujourd'hui et sur les données quantitatives sur lesquelles ils s'appuient pour justement mesurer et définir diagnostiquement, enfin définir les catégories nosologiques, mais aussi avoir apporté un jugement diagnostique. Donc son constat, c'est de dire que les maladies comme les oiseaux ne sont pas des catégories naturelles. Il n'y a pas dans la nature de maladies en général. Il y a des maladies. De même, il n'y a pas de la classe oiseau. Il n'y a rien de cela dans la nature et on ne peut pas définir de manière des caractéristiques nécessaires et suffisantes de manière classique. Mais une définition est possible et il propose une définition, une théorie de la maladie comme ressemblance à un prototype. C'est-à-dire qu'un concept détermine une catégorie, non pas en identifiant donc des caractéristiques nécessaires et suffisantes de ses membres, mais en mettant en évidence une structure, la structure relationnelle de la catégorie. Et cette structure relationnelle de la catégorie, elle est donnée par les meilleurs exemples appelés prototypes. Et qui sont ces prototypes sont tels que les autres membres de la catégorie ressemblent à cet exemple dans différentes mesures. Alors, en fait, il reprend ici des travaux sur la notion de prototype et ces travaux en psychologie au départ, en réalité, notamment des travaux menés par cette psychologue Roche dans les années 70. Et qui, justement, a beaucoup travaillé sur cette catégorie d'oiseaux, des oiseaux, et qui a mis en évidence que quand on demande qu'est-ce que c'est qu'un oiseau pour vous, à partir d'études faites, d'interviews, c'est le rouge-gorge qui arrive en premier. Donc le rouge-gorge serait le prototype de l'oiseau. Et à partir de ces prototypes, effectivement, enfin, la manière dont Zadek Zadeh, lui, reprend cette approche-là, hein, cette révolution-là dans la logique et la définition des concepts, consiste à dire que pour la maladie, en fait, il nous faut interroger les peuples, enfin, pour savoir quelles maladies sont des prototypes pour les autres, parce que du coup, il faut bien savoir, quelles sont, puisque c'est par ressemblance qu'on va définir la maladie, il faut qu'on puisse identifier quels sont ces prototypes qui nous permettent de définir les ressemblances. Et il nous dit, mais il faut interroger les peuples de manière empirique sur les situations humaines qu'ils considèrent comme des maladies par excellence, de la même façon que la psychologue Roche l'a fait pour mettre en évidence le rouge-gorge et le prototype de l'oiseau. Donc on répond à la question « qu'est-ce qu'une maladie ?» en montrant quelques maladies typiques dans une société donnée. Alors, je reviens à l'exemple de l'évasion fiscale. Pourquoi l'évasion fiscale n'est-elle pas un comportement pathologique ? Il nous dit, mais c'est parce qu'elle ressemble à un degré faible à l'un des prototypes de maladie que la société retient comme tel. Et les incertitudes sur le caractère pathologique de l'homosexualité ou de certains états dépressifs ne dépendent donc pas des arguments concernant ou des critères de la maladie, mais directement en fait d'un choix que l'on fait de tenir ces états pour des prototypes ou des états caractérisés par ressemblance plus ou moins grande à ces prototypes. Voilà pour ce que je voulais vous présenter en réalité sur les développements philosophiques sur ces questions de la définition de la santé et de la maladie. Pour conclure, simplement, il me semble que du coup, le problème n'est peut-être pas tant que nous sommes donc tous malades, mais peut-être plus, et puis de fait, c'est celui auquel sont confrontés les médecins, et puis les décideurs politiques, c'est de savoir à quel degré nous le sommes et effectivement à partir de quel degré, enfin quel type, quel degré requiert un traitement, lequel justifie un remboursement, etc. Et l'autre point aussi que je voudrais souligner, qui est apparu dans le propos, je pense que dans, à la fois chez Nordenfeld ou Bourse, il semble nécessaire d'intégrer différentes normes plutôt que de se focaliser sur l'une ou l'autre, et en particulier effectivement d'intégrer ces dimensions biologiques, sociales, mais aussi économiques et techniques pour cette question de la démarcation du normal et du pathologique. Je vous remercie pour votre grande attention.